Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans une vingtaine de minutes, nous évoquerons avec Guy l'écrivain Thierry Jonquet qui est décédé au mois d'août. Nous vous proposerons la rediffusion d'une émission Noir c'est Noir avec pour invité Thierry Jonquet et c'était le 2 novembre 1995. Mais d'ici là, un peu de musique tumultueuse. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1008. Jean au micro, salut.
Some people live in guilt, consumed in sorrow.
Et pour commencer, The Dirty Dozen Brass Band, Inner City Blues. From what life has shown, like don't follow the crowd, get a life of your own. I ran the streets crazy, seen every kind of sickness, had to get a grip and straighten up with the quickness. Avec Guru. Problems at the crib, did my share of robbing and nearly had to do a bit.
Experience has taught me to check oneself and keep a balance to your physical and mental health. If I don't give it to you, homie, then who's gonna? Instead of seeking peace, so many choose drama. Compulsive behavior, irrational statements lead to errors and blunders. In actual cases, some people treat themselves with no respect. As for me, I'm making moves with no regret. Still, it makes me wanna holler. At the constellations, look into your soul, feel a revelation. Your mind, in its most positive state, will connect with others who equally relate. Planets come together in a peaceful formation, so we can surpass the pain and degradation. Suffering and sacrifice will not be in vain, cause the beauty that is true will always remain. Impurities within. If you don't stand for something, you will fall for anything. Let's see what this new day brings. And still, it makes me wanna holler. We'll be right back.
tables will turn, when the lies, the myths, and the fables will burn, and that which is pure will then shine through. So it's time to leave the negative thoughts behind you. Inhale and breathe the good air in. Exhale, release impurities within. If you don't stand for something, you will fall for anything. Let's see what this new day brings. And still it makes me wanna holler, wanna holler.
Et après le Dirty Dozen Brass Band avec Guru, on passe à Georges Brassens et sa vision de l'hécatombe.
Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies, perdant toute mesure, se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle à ces croquignoles. En voyant ces braves pandores être à deux doigts de succomber, moi je bichais car je les adore sous la forme de Maccabée. De la mansarde où je réside, j'excitais les farouches bras des mégères gendarmicides en criant hippipipoura. Frénétique, l'une d'elles attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches, mort aux lois, vive l'anarchie. Une autre fourre avec rudesse le crâne d'un de ses lourdeaux entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau. La plus grasse de ses femelles, ouvrant son corsage dilaté, matraque à grands coups de mamelle ce qui passe à sa portée. Il tombe, 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 et selon les avis compétents, il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps. Jugeant enfin que leur victime avait eu leur compte en deniant, ces furies comme outrage ultime en retournant à leurs oignons. Ces furies, à peine si j'ose le dire tellement c'est bas, leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas. Leur aurait même coupé les choses, par bonheur ils n'en avaient pas.
Avec un extrait de l'album à venir de Pascal Comelade, A Freak Serenade. Thank you. Pascal Comelade. On retrouve Georges Brassens et juste après, on évoquera l'écrivain Thierry Jonquet avec Guy qui vient d'arriver dans les studios. On écoutera la rediffusion d'une de ses interviews.
Depuis que l'homme écrit l'histoire, depuis qu'il bataille à cœur joie, entre mille et une guerres notoires, si j'étais tenu de faire un choix, à l'encontre du vieil Homère, je déclarerai tout de suite, moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Est-ce à dire que je méprise les nobles guerres de jadis, que je me soucie comme d'une cerise de celle de 70? Au contraire, je la révère et lui donne un satisfécit. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Je sais que les guerriers de Sparte plantaient pas leurs épées dans l'eau, que les grognards de Bonaparte tiraient pas leur poudre aux moineaux. Leurs faits d'armes sont légendaires, au garde à vous je les félicite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Bien sûr, celle de l'an 40 ne m'a pas tout à fait déçu. Elle fut longue et massacrante, et je ne crache pas dessus. Mais à mon sens, elle ne vaut guère, guère plus qu'un premier accessite. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mon but n'est pas de chercher noise aux guérillas, non fichtre non. Guerre sainte, guerre sournoise, qui n'ose pas dire leur nom. Chacune a quelque chose pour plaire, chacune a son petit mérite. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Mais mon colon, celle que je préfère, c'est la guerre de 14-18. Du fond de son sac à malice, Mars va sans doute à l'occasion en sortir une vraie délice qui me fera grosse impression. En attendant, je persévère à dire que ma guerre favorite, celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18. Celle mon colon que je voudrais faire, c'est la guerre de 14-18.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Salut Guy.
Alors Jean, c'est laquelle que tu préfères toi? Et ça vient de où ce Brassens là?
Eh bien écoute, voilà, j'ai réécouté Brassens cet été, mais en fait je l'ai réécouté recréé par... Les étrangers familiers, en fait, les étrangers familiers, c'est une formation à la base des musiciens de la compagnie des Musiques à Ouïr, autour du batteur de jazz, on pourrait dire jazz, Denis Charolle, avec pour invité en particulier Loïc Lantoine et leur spectacle, donc Les étrangers familiers, est un hommage, un salut, comme ils le disent, à Georges Brassens. Et c'est une recréation de toutes les, pas de toutes les chansons, mais d'un grand nombre de chansons de Georges Brassens. Et c'est vraiment formidable. Et du coup,
Brassens est formidable aussi.
Et voilà, ça montre toute la richesse de Brassens. Et vraiment, quand j'ai réécouté l'Hécatombe, je ne sais pas si tu as pu l'entendre en arrivant.
Non.
C'est une bagarre sur un
marché de... Oui, je connais le marché de Brive. Hein,
voilà, c'est
la Gaillarde.
Et vraiment, c'est formidable.
Mais donc la version Brassens, parce que donc, le spectacle n'a pas débouché sur un CD ou il y a, si, il y a un
non,
CD.
Non, alors le CD est en... Le travail sur le CD en studio est en cours.
Ah d'accord.
Et donc le CD va sortir alors que le spectacle tourne déjà depuis à peu près un an. Ouais, ils seront dans la région, hein, ils seront à Calais, ils étaient à Béthune l'année
dernière.
Oui,
ils sont passés à Béthune déjà. Ouais.
De manière un peu confidentielle, ils seront à Calais et puis on espère bien les voir un jour à Arras.
Donc il faut aller les voir et puis il faut écouter Brassens.
Il faudrait écouter Brassens, oui.
Et puis il faut lire, relire, lire Thierry
Jonquet. Alors ouais, c'est aussi ça un truc d'été. Au mois d'août, le 9 août, hein, on a appris le décès de Thierry Jonquet, l'écrivain Thierry Jonquet. Auteur de polar, mais pas seulement.
Non, bon, enfin bon, c'est quand même pour ceux-là qu'il est connu, sa mort a quand même n'est pas passée inaperçue dans la presse. Hein. Bon, moi j'ai le papier du Monde, quand même une page une page nécro, romancier, figure majeure du néo-polar français. Hein, donc ça, c'était pour le titre du Monde. Bon, Libération, on le fait à la Libération. Hein, Jonquet fait table rase, bien sûr, en référence à des bouquins importants de Jonquet, qu'il avait d'ailleurs écrit sous pseudonyme, « Du passé faisons table rase », et le pseudonyme, c'était Ramon Mercader. Donc, c'est essentiellement pour cela que Thierry Jonquet est connu. Toi, tu voulais dire qu'il était connu pour quoi aussi, Jean ?
Oh bah, il a écrit un certain nombre d'autres livres qu'il ne classifie pas lui-même dans le domaine du roman de du roman noir. Et il a aussi des belles réussites sur ce terrain-là. Hein. Bon, j'ai plus le titre en tête.
Je pense que tu veux
Rouge
parler
baiser.
De Rouge, c'est la vie.
Rouge, c'est la vie.
Rouge, c'est la vie. Donc, qui est un récit un peu autobiographique sur les années. Ces années 60, quoi. Hein. Et
ouais,
donc
60-70.
60-70.
La rencontre de sa compagne.
Sa compagne.
Et l'évocation de trajets particuliers qui sont les juifs révolutionnaires, leur révolte, etc. Bon,
et aussi son parcours. Bon, Thierry Jonquet est un Parisien, est né en 1954. Son père est mécano. À la RATP, donc bon, il est passé dans tous les circuits hein, de formation des enfants de la classe ouvrière de ces années-là. Donc la première étape, bien sûr, c'est le PC. Il s'en est écarté. Il a rejoint la lutte ouvrière, LO. Il a été militant de LO, donc c'est un militant extrême gauche, comme beaucoup d'écrivains de ce qu'on appelle le néo-polar français, pour finir à l'LCR, et puis bon, pour finir. Par prendre du recul par rapport à tout ça hein, et s'investir dans la littérature, donc une littérature engagée, donc on dit du polar, du roman policier. C'est sûr que c'est bon, beaucoup de ses romans sont très noirs hein, sont très sombres, enfin on va plutôt dire sombres que noirs, mais c'est une littérature d'engagement. D'ailleurs son dernier hein, puisqu'on parle de quelques-uns de ses livres, son dernier roman, Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crâne, déjà un titre assez impressionnant. Je pense qu'il avait obtenu pour ce roman, j'ai perdu la ligne là, dans l'article où je lisais ça, il a obtenu un prix de la LICRA, etc. Bon, c'est toujours lié à un engagement personnel humaniste. Mais bon, en même temps, sa fin de carrière a été aussi un peu dénigrée, fin de carrière littéraire hein, par certains. Il s'est parfois... il a parfois été accusé d'avoir tourné néo-réac. Bon,
ouais,
mais ça, tout ça, ça se discute. Quoi,
ouais, hein, tout ça se discute. C'est lié en fait au livre qu'il avait écrit sur son quartier à Belleville,
voilà.
Et qui a fait beaucoup de débats, alors qu'il était d'ailleurs un des membres fondateurs de Ralph Ron. Il y a eu tout un
fait,
débat,
des
débats sur est-ce qu'on devait dire un certain nombre de choses comme il les décrivait. En tout cas, c'est, je ne sais pas, mais dans toi, peut-être, Guy, c'est différent, j'en sais pas, je ne sais pas, mais moi, dans le polar, je l'associe. Peut-être historiquement, dans l'histoire du polar, un peu à Deninx. Ils ont un parcours quand même, je dirais pas parallèle ou semblable, mais parce que bon, ils sont un peu brouillés à la fin, bon, peu importe. Mais ils sont arrivés un peu à la même époque, avec des histoires proches, finalement.
Proches, très proches.
Proches,
hein,
des préoccupations assez proches.
Non, mais je suis complètement d'accord
avec
toi.
Une écriture qui n'est pas forcément la même. Hein,
non,
c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose.
C'est pas la même chose, surtout sur la dernière période de Jonquet.
Ouais. Mais même au début, hein, la démarche est différente. Bon, dès le début, Jonquet est beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre hein, que Deninx. Oui, bon, je le dis parce que je pense que c'est important et ça pourra régler tous les problèmes. Donc, enfin les problèmes, hein, tous les discours qui ont pu être tenus, les attaques qui ont pu être portées à Jonquet pour son dernier bouquin, donc sorti en 2006, il a obtenu la médaille d'honneur de la LICRA. Donc ça enlève tout doute à son engagement. Mais pour revenir à ce que tu disais, ben moi c'est simple, la première image que j'ai de Jonquet et d'Enax, c'est une image où je les vois ensemble, enfin j'ai ce souvenir là, il faudrait vérifier mais j'en suis quasiment sûr, ils étaient invités à une émission d'Apostrophe à l'occasion de la parution, enfin c'était autour du roman noir français, c'était la parution du numéro 2000 de la série noire, et c'est Thierry Jonquet hein, qui avait été choisi donc pour ce numéro 2000 avec
La bête et la belle. La Belle et la Bête.
Voilà, c'est ça. Faut pas se tromper. Hein.
À vérifier.
Alors, je te le dis tout de suite, la parution La Bête. La Bête et la Belle.
La Bête et la Belle.
Qui porte. Et toi, tu l'as en plus. Moi, je l'avais, je l'ai perdu. J'ai vu que tu l'avais. Il faudrait que je te le pique, hein, Jean.
Oui, moi, je l'ai dédicacé en plus.
Il l'a dédicacé, ouais, bien sûr. Bon, ben, tu vas pouvoir expliquer pourquoi tu l'as dédicacé.
Ouais, parce que.
Non, mais en tout cas, pour terminer là-dessus, hein, on va revenir sur la dédicace. C'est une démarche, on peut dire que Jonquet et Dénac sont les enfants de roman noir français porté par Jean-Patrick Manchette.
C'est la suite. Quoi.
C'est la suite. Hein, et puis, un peu derrière Fajardi, qui a écrit un peu avant eux. Et on va dire que Jonquet. Comment ça? Enfin, Jonquet, pour moi, les premiers romans, j'avais plus de mal à lire que ceux de Dénax, parce que c'est vraiment rentre dedans. Bon, La Bête et la Belle, il faut le lire. Migal, c'est
un. Ah, Migal, bouquin. C'est terrible.
D'ailleurs, j'ai vu dans l'article de Libé qu'il devrait inspirer le prochain film de Almodovar, Migal. Mm-hmm. Donc, c'est terrible. Hein, c'est. Même si les romans de Dénac sont aussi noirs, dénoncent un certain nombre de violences, mais on est plus dans la violence sociale chez Dénac, tandis que chez Jonquet, on est quand même la violence sociale.
Des marges.
Voilà.
Peut-être des marges.
La violence.
Et en même temps, significative.
Significative, hein, tout à fait. Donc c'est plus dur. Mais bon, ensuite, il y a aussi un bouquin comme moi, celui que je préfère, hein, celui que je recommande, c'est Du passé, faisons table rase. Bon, moi, quand j'ai lu ça, c'est aussi un bouquin qui m'a appris beaucoup de choses, quoi, hein, sur le. L'histoire du PC, etc. Et donc ça, c'est un bouquin d'histoire quasiment. Quoi, hein. C'est un roman historique, bien ficelé. Toi, je sais que c'est pas ton préféré.
Non, moi j'aime beaucoup le Secret du Rabbin.
Voilà. Donc alors, Jean, cette série Noire 2000, dédicacée, pourquoi?
Oui, tout simplement parce qu'on a rencontré Thierry Jonquet, je crois au moins à deux reprises à Arras. Hein, et on l'a interviewé à l'époque. Thierry Jonquet qui avait été l'un des invités, peut-être l'un des premiers même invités du lycée Guy Mollet, des collègues enseignants en lettres, hein, qui invitaient des auteurs de polar, qui créaient des rencontres avec les lycéens, ce qui était une belle chose. Hein. Ça se faisait assez rarement à l'époque.
Ouais.
Et donc Thierry Jonquet était
une belle brochette d'invités. Hein.
Ah ouais, ouais. Et donc on avait pu interviewer ces écrivains à l'occasion de leur venue et on avait interviewé Thierry Jonquet deux fois.
Voilà.
Et on va écouter.
La première, donc c'était en 1995. Donc on vous demande de l'indulgence, hein, à la fois par rapport à la technique, quoi, la qualité sonore. Hein, c'est une cassette.
C'est un enregistrement en cassette. Ouais.
Cassette. Alors en plus, je ne sais pas comment j'avais enregistré. Est-ce que c'était directement. Ouais, j'avais dû l'enregistrer dans le studio, quoi. Et donc, c'est une cassette, hein, qui a quand même 15 ans, donc un peu d'indulgence. Puis indulgence aussi par rapport aux intervieweurs, hein, puisque c'était quand même une des premières...
Non, mais vous allez voir que c'est très bien.
C'est une des premières, quand même, émissions. Puis Thierry Jonquet, bon, pour terminer, hein, t'es pas un causeur, quoi. Hein, c'est pas quelqu'un qui parle spontanément. Certains écrivains, c'est tout... Hein. On leur pose une question et on est tranquille pendant trois quarts d'heure. Jonquet, c'était pas le cas. Hein. Il fallait aller le chercher.
Alors, c'était un Noir c'est Noir spécial, voilà. Thierry Jonquet. Émission animée par Guy. Et interviennent dans l'émission ponctuellement Olivier.
Ouais, qui contribuait à Tumulte. Et puis qui s'intéressait au roman noir. Et puis, bien sûr, toi, Jean.
Voilà, on écoute. Donc, c'était en 1995. Hein.
Noir c'est Noir, votre rendez-vous avec le polar sur PFM Radio. Noir c'est Noir exceptionnel aujourd'hui, à la fois dans son contenu et dans sa durée, puisque je vous propose une heure de rencontre avec Thierry Jonquet. Bonjour, Guy au micro pour cette émission spéciale, avec pour m'aider dans cette tâche le détective Jean. We'll be right back. Thierry Jonquet a fait son entrée dans le monde du polar au début des années 80 en signant sous son nom Mémoire en cage et sous le pseudonyme de Ramon Mercader du passé faisant table rase. La consécration arrive en 1985 puisque avec La Bête et la Belle, oui j'ai bien dit La Bête et la Belle, Thierry Jonquet a l'honneur d'être l'auteur de la série noire numéro 2000. À cette occasion, il a été invité par de nombreux médias. Il a participé entre autres à l'incontournable émission de l'époque, l'émission de Bernard Pivot, apostrophe. Consécration aussi parce que ce roman a obtenu le trophée 813 du roman policier, peut-être d'autres prix d'ailleurs. Aujourd'hui, les titres se sont accumulés, on doit en être à une bonne quinzaine, et cela va du néo-polar au polar politique, pourrait-on dire. Donc cela va du néo-polar au roman policier plus traditionnel, en passant par tout simplement le roman noir. La synthèse de tout cela se retrouve peut-être dans Les Orpailleurs, un titre important dans la carrière de Thierry Jonquet, publié en 1993 et qui a été reconnu, un titre qui a été reconnu unanimement par la critique, un roman qui a obtenu lui aussi de nombreux prix. Thierry Jonquet a écrit enfin pour les enfants et les adolescents, il écrit toujours pour les enfants et les adolescents. Il a écrit aussi un scénario, plusieurs de bandes dessinées, avec Tardy, non ? Non, je me trompe là.
Oui, c'était pas vraiment une BD, c'était un roman illustré par Tardy.
Ah oui, donc c'était un roman illustré par Tardy, donc une collaboration avec un...
C'est ça qu'entre les images, il y avait un peu de texte.
Un dessinateur, oui. C'est différent donc du scénario BD.
Parce que moi je me suis pas du tout posé le... On a donné un texte à Tardy, il est illustré, on n'a pas travaillé ensemble.
D'accord. Et puis il y a aussi, vous travaillez pour la télévision. Et puis d'ailleurs, vous avez écrit pour la petite histoire une histoire justement pour la fameuse série Les 5 dernières minutes. Mais c'est un moment donc. Voilà, vous l'avez compris. Nous recevons donc aujourd'hui un auteur devenu une des références du polar français et du roman noir en général.
I feel like I just smoked a deck of cigarettes and forgot to blow out the smoke.
Alors pour débuter cette rencontre, cette émission, il me paraît logique d'évoquer le dernier titre que vous publiez, Mémoire en cage, en série noire. Alors ça tombe bien parce que c'est une réédition en fin de compte de votre premier roman.
Oui, oui, c'était le premier roman paru en 82, je crois, 81-82, chez Albin Michel, et qui était devenu complètement introuvable. Et que j'ai remanié un petit peu pour le republier dans la série noire.
Ouais, c'est ce que j'ai lu. Il est annoncé que vous l'avez réécrit.
Réécrit, c'est un bien grand mot. Non, j'ai... c'était un texte de jeunesse qui méritait quelques petites corrections, quoi.
Un texte de jeunesse, mais quand même qui cadre un petit peu ce que va devenir votre travail en fin de compte, puisque on ne va pas raconter l'histoire détaillée de ce livre, mais on se situe ça, toute l'histoire se déroule dans un hôpital pour des enfants handicapés, et on va suivre plus particulièrement dans ce bouquin le parcours d'une des jeunes filles qui est hospitalisée. Elle s'appelle Cynthia. Elle ne parle plus, elle est handicapée motrice, apparemment au niveau de l'intellect, c'est plus tellement ça. C'est ce qu'on
croit.
C'est ce qu'on croit. Mais donc, je pense que ce texte est lié quelque part à une expérience que vous avez vécue personnellement, une expérience professionnelle.
Oui, oui. Professionnelle, oui, pas personnelle. Non, c'était. L'action se déroule dans un hôpital qui existe dans la réalité, à Saint-Maurice. Qui est l'Institut national de réadaptation qui s'occupe de cas de handicap très lourds, dans lequel j'ai passé un an, moi, en tant qu'ergothérapeute. J'étais ergothérapeute à l'époque. Donc, c'est un cadre, moi, qui m'avait séduit pour un roman, puisque le cadre de l'hôpital a été très peu utilisé en France. Dans la topographie, il n'y a pas grand chose. Et là, en plus, c'était une histoire de vengeance implacable. Mmh. Et j'avais toute l'atmosphère dans la tête, tous les décors et un petit peu toute la des anecdotes, des histoires.
Mais qu'est-ce qui est venu en premier? L'envie d'écrire un... Bon, c'est un roman noir, c'est un,
ah oui,
un polar.
C'est un roman noir.
Qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est l'idée d'écrire un polar ou est-ce que c'est l'idée d'écrire justement sur ce milieu assez particulier et puis en fin de compte utiliser le polar pour le décrire d'une autre manière?
C'est un petit peu les deux. C'est-à-dire que quand je travaillais là-bas, il y avait une gamine qui s'appelait Cynthia qui avait un comportement étrange et je me suis longtemps interrogé à son sujet. Savoir si elle était débile ou pas, vraiment débile, ou s'il y avait quelque chose d'autre, s'il n'y avait pas un masque, bon, qui parfois tombait. Alors, je ne vais pas vous expliquer dans les détails, mais après, quand j'ai commencé à écrire des romans noirs, son histoire m'est revenue tout de suite en mémoire, quoi, parce que dans ce cadre-là, qui était très impressionnant, quoi, très, très spectaculaire, le monde de la médecine, du handicap et tout, on est tout de suite dans le drame, quoi. Et cette gamine qui avait un comportement un peu mystérieux m'a incité à écrire là-dessus. Quoi.
Ouais, donc bon, je disais que ce livre, en fin de compte, ce titre cadre bien le reste de votre œuvre, de vos écrits. Bon, on y trouve aussi une ambiance particulièrement sombre, particulièrement noire. On peut même dire glauque. Il y a des passages qui sont très difficiles.
Oui, bah c'était un premier, pas tout à fait un premier roman, mais presque, enfin le premier roman publié en tout cas. Et c'est le sujet qui a imposé le côté un peu dur du récit, quoi. C'était pas, moi j'ai pas cherché à en rajouter, c'était un peu par souci de réalisme et puis par une espèce de fidélité au personnage d'aller jusqu'au bout du pari que le personnage se fixe, quoi. Donc ça peut pas, c'est d'emblée un univers très très sombre, quoi.
Il y a un mot clé là qui a été prononcé, c'est le mot réalisme, parce que bon, paradoxalement l'ambiance est vraiment sombre, glauque, et puis il y a bon, une sensation de d'être dans la vérité, dans ce qui se passe, ce qui peut se passer tous les jours dans un hôpital, dans ce que peut vivre tous les jours justement une jeune fille handicapée qui vit dans une chaise roulante. C'est aussi peut-être le choix narratif, parce que vous aimez bien vous mettre dans la peau.
Oui,
de
c'est
vos
ce que
je disais,
c'est qu'à partir du moment où toute une partie du récit est, il y a plusieurs narrateurs, il y a un narrateur extérieur, puis il y a trois narrateurs qui sont les trois protagonistes principaux de l'action et qui racontent ce qui se passe dans leur tête au moment des faits, quoi. Donc immédiatement, on est plongé à l'intérieur des acteurs, quoi. On voit, c'est un point de vue complètement subjectif, ce qui donne, bon, comme les gens sont dans leur milieu et surtout elle, Cynthia, elle n'a pas de fioriture à faire sur ce qui l'entoure, hein. Elle parle des choses en termes assez crus, quoi.
Donc là, on peut dire, en fin de compte, qu'on se situe en plein dans ce qu'on a appelé le néo-polar français, c'est-à-dire le roman policier témoin de son temps, regard sur la société, ses dysfonctionnements,
bah oui,
engagement
non,
politique.
Oui et non, parce que là, en l'occurrence, ce qui avait marqué beaucoup les textes publiés sous l'étiquette néo-polar, c'était vraiment des textes assez politiques. Alors que là, dans Noir en cage, il n'y a pas de... D'une part, il n'y a pas de... Il n'y a aucune vision politique. Mmh. C'est vraiment une histoire inter-individuelle de gens qui ont des comptes à régler. Et d'autre part, dans le néo-polar, on piétinait allègrement toute idée d'enquête, de recherche d'indices, etc. Alors que là, le livre est fondé sur quand même une intrigue avec un commissaire qui enquête et qui cherche à comprendre ce qui s'est passé. Alors, c'est pas traité à la façon de Maigret, évidemment, mais de ce point de vue-là, c'était à l'époque un roman un peu à côté, quoi, parce que c'était un retour à une intrigue, avec des indices qu'on cherche à emboîter les uns dans les autres, et puis un cadre qui n'était pas du tout politique.
Oui, mais quand même, un cadre, justement, et vous l'avez dit, de... Bon, on retrouve que très rarement dans le roman policier le cadre du secteur hospitalier, en particulier du secteur hospitalier,
enfants,
des enfants, des enfants handicapés. C'est dans le choix du sujet, je dirais qu'il y a peut-être ce caractère.
Ah oui, ça c'était un souci d'ancrer les récits dans le réel, quoi.
Alors bon, on parlait du néo-polar, du policier politique, à la même époque, donc au début des années 80, que Mémoire en cage, vous publiez sous le pseudonyme de Ramon Mercader. On va demander à Jean qui c'est.
Je sais pas, je crois que c'est un peu connu, quoique pas tant que ça. Enfin, c'était le nom de l'assassin de Trotsky, l'envoyé de Staline, voilà. Qui a d'ailleurs fini convenablement en Union soviétique, si je me souviens bien.
Ouais, tout à fait.
Il y a quelques années, il a été même décoré.
Décoré, oui.
J'écoutais à ce propos une émission de radio sur le roman policier français. Il y a quelqu'un qui vous présentait, donc il parlait de ce pseudonyme Ramon Mercader. Il disait Ramon Mercader, donc l'assassin de Trotsky. On ne pense pas que Jonquet aurait aimé être l'assassin de Trotsky. Par contre, celui de Staline, oui.
Oui, c'est sûr. Mais justement, c'était une espèce de pied de nez. C'est-à-dire que c'était mon deuxième roman du passé sans table rase, et c'était pour les éditions Albin Michel, et les éditions Albin Michel ne faisaient rien pour promouvoir la collection Sanguine. Donc, voilà, j'avais un texte qui était un petit brûlot, très politique au contraire, et j'ai cherché un moyen de faire parler du livre. Et tout d'un coup, je me suis dit, si je le publie avec un pseudonyme mystérieux, les gens se demanderont qui c'est, et on parlera du bouquin. C'était un coup de pub, quoi. Et donc, Ramon Mercader, ça a très bien fonctionné, puisque, à l'époque, Georges Semprin me l'a dit plus tard, on lui a demandé si c'était lui. Et comme, parce qu'il avait écrit un roman qui s'appelle La deuxième mort de Ramon Mercader, il y avait aussitôt après la parution du bouquin, un grand article, une page dans Le Point, demandant qui avait écrit ça, est-ce que c'était quelqu'un de l'appareil
un
grand
de
parti de gauche. Dans Le Canard enchaîné aussi, il y avait enfin, toute la mayonnaise a pris autour du pseudonyme, quoi. Et le succès du bouquin a été assuré par le pseudo.
Je pense que c'est Manchette qui disait à propos de ce bouquin qui contient de la dynamite. Effectivement, c'est un bouquin qui vient d'être édité aux éditions d'Agorno. C'est l'histoire du dirigeant donc d'un grand parti
de gauche.
Il n'y a aucun nom cité, nom de parti, ni de nom d'homme politique. Enfin, il y en a parfois quelques-uns qu'on peut reconnaître, on y reviendra. Et puis donc, ce dirigeant qui aura un passé un petit peu pas net.
Ce qui est amusant, c'est que maintenant on dit c'est le dirigeant d'un grand parti de gauche qui, pendant la dernière guerre, n'a pas eu une attitude très claire. Et à l'époque, quand j'ai écrit le bouquin, quand on disait ça, ça faisait allusion qu'à un seul personnage.
Ouais.
Alors que maintenant, ça fait allusion à deux personnages.
Oui, quand même, il y a des. Non, il y a le parcours, ouais.
Et oui.
De loin. Mais quand on lit le bouquin, très rapidement, bon.
Ah, on voit quel. De qui
il
s'agit.
Parce que le passage dans les usines Messerschmitt, sais plus où, ça cadre bien. Alors pourquoi avoir eu le. Justement, pourquoi avoir écrit ce bouquin ?
Eh bien, parce que je m'étais dit que il y avait en France, on avait quand même l'histoire politique, sociale était riche de grandes traditions, et qu'à l'intérieur de cette histoire-là, il y avait des zones d'ombre particulièrement denses, quoi. Et notamment autour de l'affaire du secrétaire général. Et donc je me suis dit, je raisonnais vraiment de façon très élémentaire, en me disant, il existe certainement des preuves qu'on cherche à dissimuler de son passage ici ou ailleurs. Et comme il y avait des contradictions dans sa biographie officielle, qui étaient relevées déjà dans d'autres livres très sérieux d'histoire, l'idée d'inventer des pièces à conviction, de les faire disparaître et de s'attaquer aux gens qui les détiennent est venue très naturellement, quoi.
On a du mal à dissocier justement ce néopolar, ce type de roman qui est apparu dans les années 70 et puis qui a explosé donc au début des années 80. On a du mal de le dissocier d'un nom, bien sûr, Jean-Patrick Manchette, mais aussi d'auteurs qui ont eu des activités politiques, des activités militantes, qui ont participé à mai 68 et qui ont participé à des groupuscules ou des groupes d'extrême gauche révolutionnaire. C'est votre cas ?
Et oui, c'était mon cas, bien sûr. Et moi, j'avais bondi. Ça fait longtemps que j'avais cette idée de roman en tête. Et un jour, dans une librairie, je vois un roman exposé. Ça s'appelait Meurtre au Comité Central.
Oui.
Et c'était signé Montalban. Et à l'époque, Montalban était complètement inconnu en France. Et Montalban, ça pouvait être un roman français. Donc je me précipite dans la librairie, j'achète le bouquin en disant c'est pas possible, quelqu'un l'a fait. Et tout de suite, dès les premières pages, je m'aperçois que ça traite du cas espagnol, quoi. Donc là, j'ai terminé le livre dans un café immédiatement, en 2 heures. Et puis je suis rentré chez moi et j'ai commencé à écrire du passé fait en table rase en me disant, comme ça, je serai le premier. Mais il y avait eu un autre roman... qui s'appelait La Dissolution, qui se passait d'Alexis Lecaille, et qui racontait un meurtre dans une petite cellule du PC. C'est très intéressant.
Mais le titre aussi, il est quand même provocateur, je dirais, hein, du passé faisant table rase.
C'est une histoire de passé.
Est-ce que c'était un règlement de compte avec le PC, pour ne pas le citer ?
Oui, j'ai pas question du PC dans le non, mais ouais, c'est un règlement de compte. Oui et non, parce que bon, on règle pas beaucoup de comptes par le biais de la littérature, mais enfin bon, c'était quand même c'était tentant, quoi.
Et quelles ont été les réactions de la mouvance communiste ? Bon, c'était quand même le PC qui était visé. Est-ce que c'était la transposition un peu dans le domaine de la littérature de gauchistes provocateurs, quoi ?
Ah bah oui, ça,
puisque, c'est la calomnie. Ou...
Voilà, voilà. C'est... Moi, marchais comme j'étais gauchiste à l'époque, il m'a calomnié. À l'époque, il avait inventé une formule qui était les gauchistes marcelins. On était censé être les supplétifs du ministre de l'Intérieur à l'époque. Donc c'est lui qui a commencé, c'est pas moi. C'est lui qui m'a calomnié. Moi, j'ai jamais été. jamais rien reçu du ministre de l'Intérieur, Marcelin, ni de quelque ministre de l'Intérieur que ce soit. Donc le premier calomniateur, c'est lui. Alors après, bon, l'arroseur arrosé.
Est-ce que l'humanité a rendu compte de ce livre en disant quel était le personnage historique de Raymond de Mercader ?
Non, non, il n'y a pas eu de compte rendu dans l'humanité. Non.
Non, non. D'accord. L'humanité a fait table rase.
Voilà.
Bah écoute, Jean, tu vas pouvoir mettre une cassette, un peu de, une petite pause.
Comme je le parlais, elle est énormément d'Algérie.
Je sors dans la rue. J'avance vers Montparnasse. Je marche dans l'avenue du Maine.
Je te vois. Ralentis un peu. Personne ne te suit. Si. Un type à cheveux blancs, 60 ans environ. Il porte un blouson de cuir. Arrête-toi dans un tabac et repère-le discrètement. Bercel est à l'angle de la rue. Le dispositif est en place. Deux rôles.
J'ai identifié le suiveur. Il s'en est pas aperçu. Je me dirige vers la gare Montparnasse.
Change de trottoir. Éloigne-toi des abords de la gare, il y a trop de monde. Tu vas descendre dans la bouche de métro et tu remonteras aussitôt acheter un journal au kiosque. Derrière la brasserie.
Reçu. Je descends dans le métro.
Ici Bercel. Le type au blouson de cuir descend aussi. Je reste à mon poste. Rital remonte. Le gars remonte derrière lui.
Rital, dirige-toi vers Raspail, tout droit. Longe le cimetière sans trop te presser. Fais semblant de chercher quelque chose dans le journal.
Compris.
Bercel, tu me reçois ?
Mal, mais je vous reçois.
On va cueillir le suspect au coin de la rue Huygens.
D'accord.
J'arrive rue Huygens. Il me suit toujours ?
Oui, continue d'avancer, pas plus vite.
Rital dépasse la rue Huygens. Le type ne le lâche pas.
C'est bon. Encore quelques secondes.
On y va.
Recevez le dispositif.
Merde ! Il y a une manif qui vient de débarquer sur le boulevard. Les CRS balancent des bombes lacrymogènes.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?
Pas moyen d'avancer. Il y a des manifestants partout. Ils courent dans tous les sens. Putain de Dieu, j'ai perdu Rital.
Thierry Jonquier, vous avez reconnu ?
Oui, oui, oui. c'est un extrait de l'adaptation radiophonique du Manoir des Immortels sur France Culture.
Tout à fait. Alors j'ai choisi cet extrait parce que ben il révèle quand même une facette aussi de, je dirais, de l'auteur Thierry Jonquet. C'est la facette humour. Là, on voit donc une poursuite dans les rues de Paris, et puis elle est interrompue justement par une manif, quoi. Hein. Bon, et encore une fois, le manoir des Immortels, c'est pas un bouquin politique.
Ah non, pas du tout.
C'est un roman politique, noir. Avec un serial killer quasiment, on peut dire.
Ouais. Hein. Avant la lettre, avant que ça devienne la mode.
Donc quelqu'un qui tue de nombreuses autres personnes, et puis une enquête traditionnelle, un commissaire qui essaie de trouver le coupable, et puis donc, bon, il le repérait. Mais manque de bol, juste à ce moment-là, il y a une manif. Donc ça, c'est l'aspect humour, lié bien sûr à l'aspect politique. Et vous avez eu d'autres bouquins qui ont été mis en onde ou adaptés pour la radio, la télé?
Oui, sur France Culture, il y a eu Migal aussi adapté. Et sur l'écran, il y a eu de nombreuses options prises par des maisons de production sur certains de mes romans. Mais à chaque fois, c'est très difficile, quoi. C'est-à-dire que Migal, c'est un roman qui est depuis 10 ans, qui est sans arrêt sous option par des maisons de cinéma, et personne n'arrive à le faire parce que c'est un huis clos. Il y a 3-4 personnages, mais
c'est dur. Faut raconter rapidement l'histoire, quand même.
Non.
Rapidement aussi.
C'est une histoire sur la transsexualité.
Ouais.
C'est en gros l'histoire d'un chirurgien plastique dont la fille est violée par un petit malfrat, qui réussit à récupérer ce malfrat et qui se rend compte que le type est un jeune paumé assez efféminé et qui va lui faire subir un traitement particulièrement atroce, quoi, parce qu'il va l'enfermer dans une cave pendant des mois et lui faire subir un traitement aux œstrogènes pour modifier son corps et ensuite l'opérer. Donc ça a beaucoup...
ça attire,
mais jusqu'à présent, les gens qui sont intéressés ont reculé au dernier moment, quoi.
Est-ce que vous avez déjà eu la démarche d'aller vers un auteur de cinéma et lui proposer justement un tel livre? Est-ce qu'il y a une personne auquel vous pourriez penser pour...
J'ai du mal à en parler, mais il y a une société de cinéma qui a repris l'option l'année dernière, qui a fait traduire le livre en anglais pour le proposer à David Cronenberg. Bon, alors on va voir. Mais autrement, moi, non, c'est difficile de faire ça. C'est-à-dire que moi, j'envoie de façon régulière mes livres à quelques metteurs en scène que j'aime bien, que je connais. Maintenant, après, est-ce qu'ils se décident ou pas? Est-ce que ça bouge ou pas sur un livre? C'est très compliqué parce que, bon, il faut une conjonction de plusieurs phénomènes pour qu'on décide à adapter un roman, quoi.
Est-ce que ça vous fait pas un petit peu peur ce rapport polar et film noir, quand on voit le couple par exemple Manchette de Long? Bon, c'est un...
C'est-à-dire qu'il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que si on vend les droits cinématographiques, après la personne qui les achète a le droit de faire ce qu'elle en veut. Et bon, l'histoire de Manchette était beaucoup plus. C'était des histoires, qui tournaient un petit peu en dérision, une certaine forme de roman policier. Et donc, Delon, lui, les a pris, et c'est tous des romans quasiment au second degré. Et Delon, lui, les a pris au premier degré. Donc, il a fait des adaptations complètement à contresens, quoi. Quasiment toutes, sauf le meilleur. L'adaptation finalement de Manchette, c'est par Chabrol, Nada, mais encore c'est pas très très réussi. Donc moi, ça peut pas trop m'arriver. C'est-à-dire, je vois pas comment on peut vraiment détourner. On peut rater une adaptation, on peut passer à côté, mais la détourner ou prendre du second degré, prendre du premier degré pour ce qui est du second degré, ça me paraît pas trop possible.
Alors, le Manoir des Immortels, il a été publié en série noire.
Ouais,
vous
en
avez publié plusieurs en série noire, et notamment le fameux numéro 2000,
ce qui est quand même pas rien. Bon, déjà qu'on ait attribué ce numéro 2000 à un auteur français, puisque oui, oui. Bon, dans la série noire, ils sont quand même pas majoritaires. Et puis donc, on voulait attribuer à vous, pour La Bête et la Belle, là aussi, un roman très, très sombre, je dirais, pas un roman policier classique, un regard sur notre société, en fin de compte, sur... ça a dû être un moment important pour vous, ça, non ?
Ah bah oui, évidemment, parce que ça... Je savais que le numéro 2000, ce serait un événement... au moins dans le petit monde du polar. Et puis bon, ça a quand même pas mal débordé et ça m'a permis de me faire connaître par un petit coup de baguette magique.
Qu'est-ce qui a choisi ?
Les gens de la série noire, à l'époque, Robert Soula et Mounier.
Ouais. Et il y avait plusieurs titres en l'occurrence au niveau du français, non ?
Parce que... Non, moi j'avais amené le manuscrit à Soula et il en est devenu tout de suite complètement toqué. Et il m'a dit, je le garde sous le coude. C'était assez longtemps avant.
Ouais.
Il dit, je le garde sous le coude, ce sera le 2000e. Et alors, évidemment, en attendant, j'avais très peur qu'un petit malin vienne écrire quelque chose. Entre-temps, il me pique la place. Quoi. Puis finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, j'étais très content.
Bon, alors, c'est une reconnaissance de votre travail, mais je pense, d'une manière plus générale, c'est une reconnaissance du polar français. Bon, on a déjà parlé un peu
oui,
de Manchette.
C'est-à-dire le fait de le donner à un Français, c'était... Ouais. Ouais, c'était confirmer un espèce de petit tournant qui existait déjà dans la série noire, de dire voilà, les auteurs français peuvent être considérés à pied d'égalité avec les auteurs anglo-saxons. Parce qu'au début des premières années de la collection, pendant longtemps, n'était pas du tout le cas.
Mm-hmm.
Et depuis, là, depuis les années récentes, ça s'est largement confirmé.
Ouais, tout à fait. Et est-ce que vous avez justement l'impression, puisqu'on parle du polar français, d'appartenir justement à un genre plus particulier, bon, on parlait du néo-polar, etc., de faire partie de ceux qui sont arrivés derrière Manchette, est-ce que vous avez...
Ah bah ça, dans la chronologie, je peux pas nier que je suis arrivé derrière Manchette. Non, moi, oui, c'est un petit peu grâce au livre de Manchette que j'ai été attiré par le genre, quoi. Parce que ça subvertissait le genre de l'intérieur. Ça montrait qu'on pouvait tout faire avec du roman noir. Et maintenant, je suis arrivé au moment de l'explosion du courant, entre guillemets, néo-polar, avec un roman Mémoire en cache qui n'en était pas un, et un roman du passé dans la table rase qui était en plein dans ce début de tradition-là. Quoi. Et puis après, bon, j'ai fait des choses... différentes, et maintenant, de toute façon, quand on prend les gens qui écrivent aujourd'hui des romans noirs, les courants sont complètement diversifiés, dilués. Il y a vraiment toute une palette. Quoi.
Enfin, ce qu'on pouvait dire à l'époque, c'est que ces auteurs étaient des auteurs engagés.
Ouais, un petit peu.
Et aujourd'hui, vous le ressentez moins ? Cet aspect.
Non, enfin oui et non. C'est-à-dire que...
Quand vous écrivez, bon, le dernier roman écrit, publié, je pense, c'est La Vie de ma mère. On en reparlera un petit peu.
La Vie de ma mère.
La Vie de ma mère. Ouais. Est-ce que, quelque part, il y a un engagement aussi, là ?
Bah, un engagement, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas, je me méfie de ce mot-là, parce que soit ça veut dire... Si ça veut dire que ce sont des livres qui parlent de la réalité, qui prennent... qui adoptent un certain point de vue sur la réalité, donc des livres qui ne sont pas neutres, qui appellent un petit peu, sans aucune illusion sur l'efficacité, mais qui appellent un petit peu à agir, à changer les choses, d'accord. Bon. Si engagé, ça veut dire vraiment qui donne des recettes, qui démontre, qui sont des livres militants, là, je ne suis pas d'accord. Quoi. Alors là, La Vie de ma mère, c'est vraiment un livre dramatique. Quoi. C'est le parcours d'un gosse qui va... C'est une descente aux abîmes, quoi. Et donc, c'est l'actualité de ces dernières semaines la montre bien. Tout ce qui se passe dans les banlieues autour de la ceinture parisienne, c'est complètement affolant. Et les statistiques et tous les comptes rendus qu'on a des spécialistes de la criminalité insistent sur ce fait-là. C'est-à-dire qu'il y a une évolution de la criminalité et de la délinquance vers des gens de plus en plus jeunes, vraiment. Et une accentuation des crimes pour des motifs de plus en plus futiles. On a vu lors des deux années passées quoi, des meurtres d'adolescents par d'autres adolescents pour des histoires de blousons empruntés. Enfin bon, et ça c'est vraiment très très inquiétant. Alors moi, je vais pas faire un livre militant pour appeler la population française à s'engager. Bon, complètement idiot. Par contre, ce que je peux faire, c'est, comme je connais ces gamins-là, parce que j'ai été éducateur un petit peu, c'est essayer de présenter un tableau de ce qui peut se passer dans la tête d'un gosse. Mais en tant que romancier, c'est tout ce que je peux faire.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Et nous évoquions donc l'écrivain Thierry Jonquet en écoutant une rediffusion de son interview lors d'une émission spéciale Noir c'est Noir animée par Guy, où Thierry Jonquet était l'invité. Émission qui a eu lieu en novembre 1995. Thierry Jonquet sur Radio PFM. 2 novembre 1995.
Vous écoutez toujours PFM, vous écoutez toujours Noir c'est Noir, un Noir c'est Noir spécial qui pour inviter Thierry Jonquet. Alors nous avons passé en revue plusieurs des titres de cet auteur. On peut peut-être maintenant aborder un autre titre, je pense, important dans votre carrière, publié en 1993. Il s'agit des Orpailleurs. Quelque part, je dirais que c'est, je ne sais pas, hein, moi, bon, je vois ça en tant que bon amateur de polar, observateur un petit peu de cette littérature. Quelque part, ce titre a relancé, vous a relancé en tant qu'auteur de polar.
Bah oui, parce que j'avais pas fait grand chose pendant quelques années.
Bah, entre le bon, on a parlé juste avant de La Bête et la Belle, le numéro 2000, et Les Orpailleurs, donc il y a, bon, je sais pas, 7-8 ans peut-être.
Ouais, j'avais écrit des romans différents.
Ouais, il y a des romans qui ont été publiés, ouais. On va pas les citer tous, qui n'ont pas été publiés en série noire.
Non, parce que c'était pas des romans noirs. Donc ça a été publié ailleurs. Et là, avec Les Orpailleurs, l'histoire était étonnante et j'avais envie de la traiter vraiment sous un mode très réaliste. Et donc, en faisant un véritable roman d'enquête, quoi. Et pour ça, je suis allé faire un stage chez un juge d'instruction qui m'a montré des tas de choses, qui m'a appris le métier. Et donc, après, en construisant le roman, j'ai essayé d'être au plus proche de la réalité. Donc ça, c'est une espèce de retour à un vrai roman d'enquête, quoi. Mais enfin,
il n'y a pas que ça. Cet aspect-là, c'est sûr pour quelqu'un qui veut découvrir le quotidien d'un juge d'instruction, bon, c'est un bouquin à lire. Voilà, ouais. C'est quasiment de l'enquête, je dirais, l'enquête journalistique. Bon, il y a aussi une trame policière. Il y a quand même au début, d'ailleurs, c'est pareil. Il y a un peu un serial killer. Enfin, on trouve des mains, hein, si mes souvenirs sont bons. Et puis, bon, il y a la fin quand même, où là, il y a une nouvelle dimension qui apparaît. une dimension historique, hein, qui est chère d'ailleurs aux auteurs du néo-polar.
Oui.
D'essayer
de raccorder
à l'histoire.
Oui, oui, moi c'était, j'étais tombé, bon, ça aussi on va pas raconter l'histoire des orpailleurs, mais j'étais tombé sur cette histoire qui est complètement incroyable, et j'ai fait ma petite enquête, je suis allé sur place en Pologne, etc. Et après, c'était effectivement le moyen de raccorder une histoire criminelle à la guerre, quoi, qui est...
À la dernière guerre mondiale. Et au camp de concentration.
Voilà, donc c'était l'histoire. Enfin, tout s'imposait de soi, quoi. Il n'y avait pas de. J'avais lu un article dans l'événement du jeudi qui retraçait l'histoire des orpailleurs. Et en lisant l'article, le roman était construit, quoi. Et après, bon, effectivement, c'est un roman qui débouche sur l'affaire des. La déportation, enfin bon, ça raccorde un arrière-plan qu'on n'avait pas trop l'habitude de voir dans le roman policier.
Bon, moi, c'est un roman que je recommande bien sûr à tous nos auditeurs. C'est un roman qui a été qui est bien passé. Il a eu de très bonnes critiques
Et
puis il a obtenu
bien.
pas mal de prix.
Oui, ça marche.
Le trophée 813. Il a obtenu aussi, je pense, le prix
Mystère de la critique.
Mystère de la critique.
Évidemment.
Est-ce que, bon, obtenir ce genre de récompense, c'est important ?
Bah, c'est important, oui, dans la mesure où ça contribue à faire connaître le roman et à le diffuser. C'est sûr que bon, ça permet de distinguer, c'est un problème commercial, quoi.
Bah, il faut en parler.
Oui, hein, il faut en parler.
Parce qu'on écrit des bouquins pour les vendre.
Ah, oui, tout à fait. Hein.
Pour les vendre et pour en vivre ?
Oui, pour en vivre. C'est-à-dire que moi, maintenant, je vis... Je fais diverses activités, j'écris des romans pour enfants aussi, autour desquels s'organisent des tas de visites dans les collèges, etc. Et puis j'écris pour la télé, quoi.
Mais quand vous avez commencé à écrire, vous vous êtes dit, moi je veux écrire bon, parce que j'ai envie d'écrire, ou je veux écrire parce que bon, j'ai envie d'être lu, ou je veux écrire, je veux devenir écrivain, je veux vivre de ça.
Bah, au début, le problème, j'avais envie d'écrire des romans parce que ça me plaisait, et pour être lu. Et ensuite, le fait d'en vivre, ça me paraissait très, très lointain, quoi. C'était pas vraiment un but. Et puis, au fil des ans, d'abord, je me suis aperçu que des tas de sous-écrivains lamentables parvenaient à gagner leur vie comme ça. Donc, ça a commencé à m'énerver en me disant, je vois pas pourquoi je continuerais à prendre le métro le matin et à travailler. Bon, s'il y a beaucoup de tocards qui arrivent à vivre de leur plume en écrivant des inepties. Et puis aussi, bon là vous parliez des orpailleurs, mais pour écrire un roman comme les orpailleurs, il faut du temps.
Ah ouais,
il faut du temps, donc il faut pouvoir s'organiser en fonction de ça. Et c'est sûr que, bon, bah, à un moment, il faut arrêter toute autre activité et puis se lancer un petit peu, quoi. C'est le fait d'être, de vivre de sa plume, comme on dit, on devient aussi prisonnier de sa plume. C'est-à-dire qu'après, il faut que ça tourne.
Alors, bon, ce roman est publié, aussi été publié en série noire, mais au début, si j'ai bien compris, vous auriez préféré peut-être une autre maison d'édition.
C'est pas ça, c'est que je savais pas trop. Comme c'était un roman qui. Un roman noir, mais avec une véritable enquête qui se passe dans un milieu très particulier qui est le monde de la justice, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition et c'est la série noire qui a pris en premier.
Mais comment ça se passe avec la série noire? Parce que bon, donc là, vous devez en avoir publié 5 de titres. Je sais pas, il n'y a pas un engagement.
Ah bah si, il y a un rapport préférentiel. Mais moi, ça fait longtemps que j'ai commencé maintenant. Et entre la série noire était dirigée par Robert Soula à l'époque où j'y suis entré, et ensuite, bon, il était évident que l'âge venant, Soula allait partir. On voyait personne venir à sa place. Je crois pas que.
Parce qu'il y a une fuite, en fin de compte. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont été connus dans le roman noir français
par la
série noire.
Ouais.
Et puis qui ont vite quitté la maison. Alors, est-ce que bon, c'est parce que c'est peut-être pas rentable ou
c'est pas forcément la question.
C'est trop cadré dans un genre.
Ça, c'est sûr que la série noire, c'est quand même un ghetto, quoi. C'est-à-dire que moi, j'ai fait l'expérience de... Puisque maintenant, certains de mes livres qui ont été publiés à la série noire sont republiés en folio. Mmh. Et j'ai rencontré des gens qui avaient lu en folio. Et je leur ai demandé, mais les autres titres en série noire? Ah bah non, en série noire, on n'achète pas ces histoires de gangsters. Bon. Je leur ai dit, mais c'est la même chose. C'est des couvertures qui ne sont pas les mêmes, mais sur le fond, c'est la même chose. Et ça, je crois que dans la... aux yeux du grand public, bon, la série noire, ça continue d'être, d'être des histoires de gangsters. Quoi. Mm-hmm. C'est une image infernale qui colle à ces bouquins, qui est complètement fausse, mais dont, dont la collection a beaucoup de mal à se délivrer. Ça commence un petit peu, j'ai l'impression. Mais donc, c'est vrai que c'est un ghetto. Quoi. C'est vrai que c'est un ghetto aux yeux du grand public. Soit on imagine que c'est des histoires à la Maigret, entre guillemets, justement vraiment policières d'enquête, soit ultra violentes avec des attaques de banque et des choses comme ça. Bon. Alors, il faut savoir, soit on continue de publier dans cette collection, soit on va voir ailleurs. Moi, les Orpailleurs, je trouve que ça, ça va très bien dans la série. Hein,
Oui, mais c'est peut-être pas très, économiquement parlant, pas très rentable pour un...
Ah bah, c'est-à-dire que ça, c'est une affaire de Paris aussi. Publier un livre dans une, hors collection, dans une collection hors poche qui va coûter 120 francs, bon... le marché du livre est devenu complètement infernal. Quoi. C'est-à-dire que si les livres ne, ne démarrent pas en 3 mois, ils disparaissent, ils vont au pilon. Mmh. Donc il faut que les livres soient très vite lus, achetés, lus, pour qu'ils restent dans les librairies et qu'ils continuent d'avoir une carrière. Au moins avec la série noire, il y a une garantie de durée beaucoup plus longue. Donc des exigences de démarrage plus souples. Et donc là, les Orpailleurs, ça a très bien marché. Et bon, j'ai préféré pas prendre le risque de... J'avais un éditeur qui s'appelait Mania, qui l'aurait pris certainement, mais j'ai préféré la série noire.
Alors le dernier, pour boucler la boucle de la, la série noire, le dernier titre, non c'est pas tout à fait le dernier titre publié puisqu'il y a eu Mémoire en cage, mais là c'était une réédition, mais la première, la dernière première édition, c'est La vie de ma mère qui est sortie à peu près
un an.
Alors il y a Olivier qui vient de nous rejoindre, qui je sais a lu ce bouquin et l'a beaucoup, beaucoup apprécié. Et là vous, vous nous montrez encore en fin de compte cet aspect, je pense, important dans... dans vos bouquins, c'est cette capacité à se mettre dans la peau hein, de vos personnages. Et là, vous vous mettez dans la peau d'un, d'un gamin qui est en 6e CES. C'est ça, c'est un gamin donc, qui est en,
dans un échec scolaire.
En échec scolaire, dans un établissement pour enfants en difficulté. C'est ça, Olivier ?
Oui, c'est ça. Et ben, la, la question qu'on se pose, c'est comment vous avez conçu ce, ce livre ? Est-ce que vous avez, comment vous connaissez d'abord le milieu scolaire ?
Bah moi, j'ai été prof en section d'éducation spécialisée. Donc
ah bah oui,
ça explique beaucoup de choses.
J'ai pratiqué ce genre de gamin. Et puis après, j'ai été pendant 2-3 ans éducateur à l'éducation surveillée, qui s'appelle maintenant la protection judiciaire de la jeunesse. Donc là aussi, j'ai eu des spécimens assez pittoresques, disons. Et puis, en fait, c'est même pas ça, sur le fond... Tout le roman se passe en bas de chez moi, à Belleville, à Paris. Et ça fait une douzaine d'années que j'y habite. Et donc, j'ai vu grandir des gamins entre 10 et 20 ans, 5 et 15 ans. Et je les écoute parler dans la rue. Je les observe un petit peu. Et là, c'est vraiment l'histoire de l'un d'eux qui qui plonge dans la délinquance sans même s'en rendre compte. Quoi. Et bon, j'ai fait une espèce de petite chronique sur Belleville, de tous les petits faits divers, mais liés vraiment à la petite délinquance, quoi, hein, qu'on peut relever à droite à gauche. Et quand on fait le catalogue, on voit très bien où est le parcours des gamins.
Alors d'où vient l'inspiration, hein, en fin de compte, et ça c'est voilà pour ce bouquin, mais aussi pour d'autres. Hein, comment on en arrive à écrire de ces romans bon, parfois on se demande qui se cache un petit peu derrière l'auteur de romans policiers, est-ce qu'il n'a pas un esprit un petit peu quand même tordu, parce que pour s'intéresser comme ça aux faits divers, aux crimes, aux déviances.
Mais non, moi je m'intéresse, quand j'ouvre le journal le matin, très souvent je vois 3-4 polars. Quoi. Alors ça, soit c'est vraiment en page fait divers, soit c'est en page banlieue maintenant, ça vient beaucoup en page banlieue. Et donc moi je lis beaucoup la presse et il y a là-dedans des faits qui me fascinent, soit qui me font vraiment peur. Quoi. Et donc j'écris là-dessus. Ce qui fascine, c'est un petit peu par exemple les avancées de la médecine, bon, qui deviennent extraordinaires, mais qui en même temps sont inquiétantes très souvent. Et ce qui fait peur, bon, bah, c'est là dans la vie de ma mère, par exemple, bon, c'est tous ces gamins que je vois tourner dans mon quartier. Je me demande vraiment ce qu'ils vont devenir, quoi. Est-ce qu'ils seront réinsérables un jour? Est-ce qu'on va arrêter à stopper la spirale de la délinquance et à essayer de les stabiliser quelque part. Bon.
Et votre point de vue par rapport à ce problème-là, suite à votre expérience professionnelle, c'est quoi ?
Ah bah, mon expérience professionnelle, moi, elle date maintenant. Elle date de quelques années. Et j'ai l'impression que pendant ces quelques années, la situation a tellement empiré qu'il va falloir envisager le problème beaucoup plus sérieusement, quoi. C'est-à-dire, je crois aujourd'hui qu'il y a vraiment des milliers de gosses qui sont hors de toute atteinte. Quoi. C'est-à-dire qu'ils refusent la société dans laquelle ils vivent et ils n'y comprennent rien, de toute façon. Quand ils allument le poste de télévision, ils ne comprennent rien à ce qui se dit pendant les informations, par exemple. Ce sont donc des gens complètement marginalisés qui sont, en plus, bon, pour beaucoup d'entre eux, d'origine maghrébine, mais qui ne sont plus du tout arabes. Mais qui sont pas français, qui sont rien du tout, qui sont entre les deux, et qui c'est une nébuleuse informelle et insaisissable et qui est très très inquiétante. Moi, je vois l'avenir avec beaucoup de pessimisme. Quoi. Je pense qu'il y a vraiment des bombes à retardement là, qui sont en train de s'accumuler et qu'il faudrait désamorcer maintenant, mais avec des moyens considérables. Quoi.
Est-ce qu'il y a des gamins de ces banlieues qui l'ont lu, ce bouquin ?
Oui, 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 parce que le livre en fait devait paraître dans une collection de jeunesse, et quand je l'ai amené, on m'a dit non, c'est pas possible, c'est trop noir. Bon. Et donc c'est paru dans la série noire, et bizarrement, ça a fini par toucher un public de gamins qui ont l'âge du héros, de 6e, 5e. Et j'ai fait quelques visites moi, dans des collèges de banlieue parisienne, où les gamins étaient très contents parce que. Ils avaient lu le bouquin, ça parlait d'eux comme eux, et ils étaient très fiers, et ils avaient bien compris. Alors bon, dans les classes, il y avait des débats sur justement l'histoire du héros, qu'est-ce qu'il faut en faire, est-ce qu'à la fin il faut le mettre en prison, est-ce qu'il faut le libérer, est-ce qu'il est responsable, pas responsable. Alors, ils se posaient tous les problèmes sous-jacents à la lecture du livre.
Et la question de l'avenir, du devenir aussi
Et oui, ils se la posent avec beaucoup de... Certains d'entre eux avec beaucoup de lucidité, d'autres pas du tout, quoi. Pas du tout. Mais bon, il faut se méfier de la façon dont on peut recevoir ce genre de public peut recevoir un bouquin comme ça. C'est comme le film La Haine. C'est-à-dire, si vous projetez La Haine devant un public de Front National, ils vont applaudir en disant voilà, c'est exactement ça, les banlieues, il faut tout nettoyer. Bon. Si vous projetez La Haine devant un public de gosses des banlieues, ils vont applaudir en disant ouais, super les héros et tout. Bon. Donc, c'est très ambivalent, très ambigu, quoi. Et moi, mon livre, c'est la même chose. C'est-à-dire que, bon, on le donne à lire à des adultes qui sont complètement effrayés, parce qu'ils sentent bien que c'est vraiment la réalité, et que les gosses sont comme ça, et qu'ils peuvent être aussi violents que ça. Et si on le donne à lire à des gamins qui sont pas très loin de ce parcours-là, ils s'identifient aux héros. Bon, donc, il faut.
Est-ce que vous aviez réfléchi à tout ça en l'écrivant ?
Non, non. Non, non, pas du tout. Moi, j'ai écrit d'une seule traite, comme ça. Et après, j'ai vu au fur et à mesure les problèmes qui pouvaient se poser quand un livre de Jean circule entre les mains de jeunes lecteurs. Quoi. Parce qu'ils sont légitimés par le fait que le héros a 12 ans comme eux, qu'il est en échec scolaire comme eux, que malgré tout, il s'en sort comme eux parce qu'il a réussi à piquer du fric à droite à gauche, qu'il fait des combines, des arnaques. Et puis, il y a le moment où ça s'aggrave et où il participe à des actes vraiment criminels, quoi. Mais justement, c'est intéressant parce que tout est là, quoi. Tout est dans le pas à ne pas franchir, etc., etc.
Je pense qu'il y a un inspecteur d'académie qui a conseillé ce bouquin.
Absolument, dans la région de Reims.
En lecture, dans les UFM. Ouais. Futur prof, donc, ouais, ouais. Ce qui prouve quand même ça.
Il y avait un but pédagogique derrière, mais je ne l'avais pas vu.
Thierry Jonquier, vous nous disiez que La vie de ma mère, au départ, a été écrite.
Il y a les progrès.
J'y arriverai d'ici la fin. A été écrit en destination bon, de collections de bouquins pour les jeunes, pour les enfants. Mais en fin de compte, vous en avez écrit aussi. Il y en a qui ont été publiés dans ces collections. J'en ai deux sous les yeux. Un enfant dans la guerre chez Gallimard Page Blanche. Et puis aussi La bombe humaine en souris noire. Donc. Pourquoi aussi écrire pour les enfants ?
Eh ben ça, écoutez, c'est bizarre, c'est parce qu'on me l'a demandé. C'est-à-dire que il y a quelques années, le type qui voulait lancer la collection Souris Noire est allé voir les auteurs de romans policiers, tout simplement parce qu'il voulait lancer une collection pour enfants avec des petits romans d'intrigue. Et il s'est dit, c'est complètement idiot d'aller voir les spécialistes de la littérature enfantine. Autant aller voir ceux qui écrivent pour les adultes. Et nous, on a tous su arriver avec des yeux ronds. Quoi. Moi, je venais de publier Migal et Mémoire en cage. Bon, qui venait de me demander d'écrire pour les enfants. Je lui ai dit, franchement, c'est pas raisonnable. Quoi. Et puis, il m'a pas lâché. Je lui ai promis un texte et j'ai fini par faire un texte. Et surprise, ça a très bien marché. Quoi. Donc là, je me suis rendu compte que je pouvais...
C'était quoi,
ça s'appelait On a volé le Nkoro Nkoro. Ouais. C'est un souris noir. Et ça a circulé pendant des années et des années. Bon, et là, je me suis rendu compte que je pouvais peut-être écrire pour les enfants. Alors après, j'ai commencé chez Nathan, avec d'autres personnages. Et donc, c'est soit on peut, soit on peut pas. Quoi. Mmh. C'est très particulier, la littérature jeunesse. Il faut, je ne vais pas vous expliquer, mais avoir la capacité de revenir en arrière dans sa tête et se remettre à la place d'un gosse. Bon. Sans pour autant tomber dans la mièvrerie. Quoi.
Et là encore, bon, moi, les deux bouquins que j'ai sous les yeux, hein, en fin de compte, vous regardez ce qui se passe autour de vous, et puis c'est tout, vous partez de là. Bon, Souris Noire, c'est La bombe humaine, c'est l'histoire de
HB.
Oui, HB, ouais, donc monsieur qui a kidnappé, enfin qui a pris en otage une classe de maternelle. Mmh. Raconté par un gamin de la classe.
Ouais, enfin, là j'ai vieilli.
Ouais, parce que ça se passe en école.
Tout ce que je voulais faire, c'était faire raconter enfin adopter le point de vue d'un enfant pendant une prise d'otage.
C'est réussi, hein, parce
voir
que
comment il aurait réagi. Et donc c'est une classe de CE2, c'est un petit, mmh. petit gamin.
C'est très bien réussi parce que bon, je l'ai fait lire à ma fille qui a 10 ans. Puis je lui ai dit, bah, écoute, je vais faire une émission avec l'auteur, t'as pas quelque chose à lui dire. Elle me dit, mais pourquoi il n'a pas écrit l'histoire lui-même, hein? Donc ça prouve que pour lui, c'est le gamin qui avait écrit l'histoire. Et puis donc, donc ça prouve que ça marche bien.
Ouais,
quoi.
Ouais,
c'était vraiment pris au jeu. L'autre bouquin c'est, que j'ai sous les yeux là, chez Gallimard, Un enfant dans la guerre, là, c'est aussi un roman très, très sombre, en fin de compte, pour des enfants, puisque vous racontez le parcours d'un jeune Iranien.
Pendant la guerre
Iran-Irak, qui part au front avec ses camarades, en fin de compte, qui est utilisé comme la chair à canon.
Bah oui, c'est ce que je vais vous expliquer il y a deux minutes. C'est-à-dire que moi, je veux bien écrire pour les enfants, mais pas des histoires mièvres. Quoi. C'est un parti pris. Hein. C'est quoi, il faut que les enfants lisent des contes de fées, lisent des romans rigolos, de la BD, tout ce qu'on veut. À partir du moment où moi j'écris pour un public jeune, je le fais avec ma personnalité et je ne vais pas me mettre à dessiner des histoires de petits lapins. Quoi. Donc je prends là aussi des histoires dans la réalité. Le tout, c'est de pouvoir s'adresser à un public jeune. Alors on ne va pas procéder exactement de la même façon, mais on aborde des thèmes aussi graves. Quoi. Et là, moi, c'était la bombe humaine, c'était par rapport à Massy, qui avait 8 ans et demi à l'époque du fait divers. Et qui avait été très choqué par ça, très très choqué. Alors c'est en discutant avec elle, je me suis aperçu que c'était important, quoi, qu'elle avait été très très impressionnée, elle posait beaucoup de questions. Et donc je me suis dit, tout a été publié dans la presse, il y a eu des photos, des articles, des commentaires, plus ou moins savants, mais vraiment toute la presse. Et le seul point de vue qui n'a pas été abordé, c'était celui des enfants. Parce que dans la réalité, c'était très jeune, et bon, j'ai essayé d'imaginer des enfants un petit peu plus vieux avec le fameux syndrome de Stockholm, hein, mmh. où les otages se mettent à prendre fait et cause pour le preneur d'otages, ce qui était un petit peu la réalité pendant l'affaire de Neuilly. Bon. Et autrement, j'ai un héros chez Nathan dans la collection Pleine Lune qui s'appelle La Poigne et qui, lui, est un SDF. Mais c'est pas un SDF, c'est pas vraiment un SDF. Il vit dans la rue, mais c'est plutôt un clochard à l'ancienne. Archimède, le clochard.
Archimède,
ça,
ouais,
ça,
ouais.
C'est un personnage comme ça. Mais ça
un plaît... ancien prof.
Oui, c'est un ancien prof. Ouais. Et ça plaît beaucoup aux enfants parce que, bon, pour eux, ça a un côté moderne avec l'affaire des SDF. Quoi. Et ça parle de problèmes parfois loufoques, parfois très, très accrochés au quotidien. Quoi.
Alors je m'aperçois que cette émission bientôt touche à sa fin. On a évoqué beaucoup de vos titres, on en a oublié un, qui est justement le préféré de Jean. Alors Jean, toi, le titre de Jonquet que tu préfères, c'est...
C'est Le secret du rabbin, qui, je l'ai appris, a été réédité.
L'édition de la Talente.
Ouais, qui était difficile donc, à trouver ces derniers temps. Et je l'ai trouvé remarquable par le fait d'abord qu'il avait choisi une période du XXe siècle qui était particulièrement complexe, riche, et qui est celle des années 20, au cœur
pendant l'été 1920.
Ouais, au cœur de l'Europe centrale. Et cette situation complexe est bien retracée dans le livre avec le télescopage de plusieurs personnages venant de différents pays comme les États-Unis, l'Union soviétique bolchevique, la France, etc. Et ces différents personnages se télescopent et d'une certaine manière rendent compte de l'unité profonde de la situation de l'époque. Alors on arrive à avoir des personnages dans le livre aussi variés que Trotsky, Einstein,
De Gaulle,
qui révèle son antisémitisme. Alors est-ce que ça c'est une recherche historique ?
Oui, ça c'est une citation exacte. C'est qui tient un discours. Là en fait, c'est le discours qui est tenu, c'est le texte d'une lettre... Il avait adressé à sa famille, et c'est assez amusant, alors je ne me souviens plus des termes exacts, mais enfin bon, il parle de cohortes entières de juifs qui errent sur les routes, prêts à s'adonner au pillage, enfin, etc. etc. Et dans la correspondance de Gaulle, ça a été publié avec, à chaque fois qu'il y avait juifs, il y avait point de suspension, trois petits points de suspension. Alors on se demande qui c'était ces cohortes de pillards qui voulaient dénoncer. Hein. Et c'est vraiment bizarre parce que dans la biographie de la Couture, par exemple, la Couture excuse complètement l'antisémitisme de De Gaulle en disant « mais oui, c'est normal, il était antisémite » parce qu'il vivait dans un milieu antisémite. C'est quand, oui. même, c'est quand même sidérant, quoi. Et bon, oui, il y a d'autres personnages tout à fait historiques, mais qui, c'est, tout est vrai, quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient vraiment tous en Pologne pendant l'été 1920, et, ou sur les routes qui y menaient, quoi.
Alors ça, ça a dû être un travail historique extrêmement lourd pour arriver à juxtaposer, enfin c'est même pas juxtaposer, c'est imbriquer tous ces...
Ouais, c'était pas facile parce que j'ai essayé là vraiment de que tout soit vérifié et j'ai eu du mal parce qu'il y avait des sources qui n'étaient pas... D'abord la guerre russo-polonaise qui éclate pendant l'été 1920 est un événement peu connu en France. Il n'y a qu'un seul livre qui est mal fait en plus. Et donc les sources, c'est en polonais, en yiddish, en russe, etc. Toute langue que je ne possède pas. Et donc il a fallu que je me fasse traduire des bribes de textes par-ci, par-là. Et puis après j'ai eu de la chance, j'ai rencontré des vieux, vieux monsieur qui avaient été là-bas sur le front et qui m'ont raconté des choses que personne d'autre ne savait.
Voilà, donc ça c'est le secret du rabbin qui est réédité chez l'Atalante. Nous recevions donc Thierry Jonquet. C'était Noir sur Noir.
Voilà, c'était Thierry Jonquet au micro de Radio PFM et c'était une interview réalisée le 2 novembre 1995. Tumulte, c'est terminé. À la semaine prochaine. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30. Rediffusion le mercredi à 15h et à 00h30. Salut!